Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fabrice.
Bonjour Isabelle et bonjour à tout le monde.
Une émission consacrée au passionnant destin d'aliments phares qui ont bouleversé l'histoire des hommes. Des cueillettes sauvages du paléolithique aux denrées exotiques ayant un jour débarqué du Nouveau Monde pour devenir des plus communes aujourd'hui dans nos assiettes.
C'est vrai que le miel par exemple, le lait, les céréales, le pain ou le fromage, on parle aussi du chocolat ou du café, bien ça fait partie d'éléments majeurs, des aliments qui ont marqué la vie des hommes, de Sapiens donc, mais aussi qui ont changé sa façon de voir le monde. Ça on va le comprendre et de penser pour dérouler cet appétissant menu de connaissances. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés, à nos micros, le sociologue de l'alimentation, l'ingénieur agronome et auteur Éric Birloez, un ami de l'émission, à qui l'on doit dernièrement aux éditions Ouest France, l'ouvrage passionnant du steak de mammouth au yaourt, 30 nourritures qui ont bouleversé nos vies.
Et puis dans un second temps, Fabrice, nous reviendrons sur notre territoire pour nous intéresser aux zones humides en compagnie de Marie Garrido, la coordinatrice de l'Observatoire régional des zones humides de Corse, service biodiversité terrestre à l'Office de l'environnement de la Corse.
Sapiens, l'invité.
Éric Birloez, bonjour et merci d'être à nos côtés.
Bonjour Isabelle et bonjour Fabrice.
Bonjour Éric, merci d'être avec nous.
Très heureux en effet de vous accueillir en plateau pour parler dans un premier temps de nos aliments aux origines. Alors j'allais dire dans l'assiette mais c'est pas vraiment le cas. Que mangeait-on au départ, Éric?
Oui, alors peut-être on peut rappeler ce qui va sembler être une évidence mais qui me paraît important de rappeler, c'est que nos, alors là vous parlez de nos plus lointains ancêtres, eh bien dès l'origine, les êtres humains, nous sommes biologiquement des mammifères omnivores. Et ça c'est important parce que ça veut dire que notre vie, notre survie a toujours dépendu de la présence conjointe dans notre régime alimentaire de nourriture végétale et animale. Bien sûr, on peut être végétarien et être en parfaite santé, mais on ne peut pas être strictement végétalien, il faut prendre quelques compléments alimentaires. Alors c'est vrai que au cours du temps, et puis selon les régions, l'importance respective de l'animal, du végétal, c'est des questions qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, cette importance, elle a beaucoup varié. Déjà au cours du temps, ce que l'on peut dire, c'est qu'au départ, nos ancêtres les plus lointains, donc on est vraiment au paléolithique, hein, les chasseurs-cueilleurs, les premiers homo habilis, il y a 2,5 millions d'années, ils ne sont pas en capacité de chasser des gros animaux. Donc ils ont surtout une nourriture végétale, ils vont consommer des bourgeons, des feuilles, des jeunes feuilles, des jeunes pousses quand même encore assez tendres. Parfois, ils sont obligés, faute de mieux, de déterrer des racines un peu plus dures, un peu plus coriaces. Et bien sûr, ils vont manger des fruits, des baies. Et comme ils sont omnivores, je le disais en commençant, eh bien, il y a aussi des petites proies faciles à attraper, pas dangereuses. Vous voyez, des insectes, des vers, etc. Et ce qui va se passer au fil du temps, c'est que de plus en plus, la ration alimentaire va faire une part importante aux produits animaux. Alors, il y a des raisons climatiques à cela, hein, puisque il y a à peu près 120-130 000 ans, nous rentrons dans une nouvelle ère glaciaire, une de plus, et là, ben, la nourriture qui est disponible, c'est surtout la nourriture animale. Il y a peu de végétaux dans toute l'Europe, alors un peu moins, c'est un peu moins vrai dans l'Europe méditerranéenne et la Corse, mais dans une grande partie de l'Europe, on a une steppe herbeuse, il y a des mousses, il y a des lichens, il y a des herbes pas très comestibles pour les humains, comme chacun le sait, et donc pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'aliments végétaux. Et donc, c'est surtout la viande qui, sous toutes ses formes, petits, voire grands animaux, hein, c'est les mammouths, les rennes, etc., les bisons, les aurochs, qui vont être chassés. Donc, il y a une évolution. C'est très végétal au départ, mais pas à 100%. Et puis, ça devient une nourriture de plus en plus carnée parce que la viande a pour l'homme de la préhistoire, du paléolithique, énormément d'atouts. Elle est calorique, elle est satiétogène, on a plus faim quand on mange de la viande, assez rapidement, et puis elle apporte évidemment de l'énergie pour résister au grand froid de cette période, en tout cas sur notre continent, bonne partie du continent eurasiatique.
Avec des techniques de chasse aussi qui vont sans doute se développer, plus les proies vont être importantes, j'imagine, hein, en tout cas, plus il va falloir élaborer alors des stratagèmes ou des outils permettant de les tuer. Est-ce que c'est à cette époque, Éric Birloez, que le miel, par exemple, vous parliez de choses sauvages, hein, qu'on peut aller capturer ou qu'on peut aller récolter, est-ce que le miel et cette envie irrépressible de sucrer, c'est à peu près là que l'homme va aussi se le mettre sous la dent?
Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant. Alors, et c'est important de parler du miel parce que et de l'attrait du sucré. Quand on pense sucré, on va penser au sucre, mais les hommes n'ont pas toujours connu le sucre. Finalement, c'est pas si vieux. Il y a, allez, grosso modo, 2500 ans que les hommes savent extraire le jus de la canne, le faire cristalliser pour obtenir du sucre, mais ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne connaissaient pas cette saveur sucrée. Au contraire, ils la recherchaient avec avidité et, comme vous dites, Fabrice, ils vont la trouver, cette saveur sucrée, dans les fruits, dans les baies, dans quelques plantes un peu sucrées. Hein, pensez par exemple à la sève de l'érable, mais aussi dans le miel. Alors c'est à l'époque, évidemment, d'abord du miel sauvage. On est toujours au paléolithique, on n'a pas domestiquer les abeilles. Alors pourquoi il y a cette avidité probable pour la saveur sucrée ? Ben c'est biologique, hein, là encore, c'est que la saveur sucrée marque la présence dans un aliment de glucose, qui est ce sucre, c'est simple, une molécule qui permet à notre organisme, et notamment au cerveau, de disposer d'une énergie immédiatement utilisable. Et donc on peut penser, d'un point de vue évolutif, que les individus qui, plus que les autres, par mutation, avaient aléatoire été les plus réceptifs à la saveur sucrée et donc recherché avec avidité le miel, eh bien ces individus ont eu un avantage adaptatif et ils ont propagé à leurs descendants, via leurs gènes, leur goût des nourritures sucrées. Donc c'est un aliment qui a été très important du point de vue archéologique. Probablement l'homme le consommait du miel depuis bien plus longtemps, mais il y a un site très connu en Turquie qui est le site de Çatalhöyük, et là on a retrouvé en faisant l'analyse chimique des tessons de céramique la présence de miel il y a 9000 ans. Mais en réalité le miel était certainement consommé depuis beaucoup plus longtemps. Le miel et l'hydromel, puisque on pense que l'hydromel a été la première boisson alcoolisée, qui a été fermentée, alcoolisée, qui a été consommée par les humains, parce que il faut du miel sauvage avec un petit peu d'eau et puis les bonnes levures et bactéries qui se baladent dans l'atmosphère, et on obtient de l'hydromel beaucoup plus facilement que si on veut s'aviser de faire du vin ou même de la bière.
Quelle est la place du lait, Éric Birlouez, dans l'alimentation de l'homme, lait qu'on aurait pu imaginer comme l'un des premiers aliments ?
Oui, mais alors justement, c'est pas assez intéressant parce que c'est pas du tout un des premiers aliments. Le lait n'était pas du tout consommé au paléolithique, c'est-à-dire pendant 2,5 millions d'années, moins les 10-12 000 ans où apparaît le néolithique, pour une raison simple, c'est-à-dire que vous n'alliez l'homme préhistorique, même s'il avait essayé de courir après une femelle d'auroch, par exemple.
N'avait pas encore domestiqué les animaux.
Voilà, et la femelle d'auroch, elle n'aurait pas donné son lait à l'homme. Donc il a fallu attendre que l'homme, bien sûr, domestique les mammifères, animaux produisant du lait pour nourrir leurs petits. Ça s'est pas fait évidemment tout à fait du jour au lendemain, mais et c'est pas très vieux, c'est-à-dire ça fait grosso modo entre 10 500 ans, même pas 11 000 ans, que l'homme a commencé à, alors c'était dans cette région qu'on appelle le croissant fertile, donc au Proche-Orient, a commencé à domestiquer, alors d'abord des chèvres et des brebis, sans doute parce que c'était des animaux plus petits que les eurocs, qui étaient quand même assez costauds, donc la chèvre à partir de la chèvre sauvage, la brebis à partir du mouflon, et à partir des eurocs, l'homme a donc domestiqué l'euroc pour avoir des vaches qui ont donné du lait. Ce qui est intéressant, c'est que au départ, ça paraît complètement contre-intuitif, c'est qu'au départ, les premiers éleveurs, ne digéraient pas le lait à l'âge adulte. Tous les nourrissons, tous les enfants du monde, depuis toujours, digèrent le lait. Le lait, c'est évidemment l'aliment unique du nouveau-né. Mais quand on est à l'âge adulte, et c'est encore le cas des deux tiers de la population mondiale, on a perdu la capacité à digérer le lait, précisément le lactose, donc le principal sucre du lait, quand on est à l'âge adulte. Alors on peut se dire, et au départ, donc dans les toutes premières populations d'éleveurs, on ne digérait pas le lait sous forme liquide. Mais alors pourquoi domestiquer des animaux qui donnent du lait si on n'est pas capable de le digérer ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les hommes ont découvert, on ne sait pas comment, mais en tout cas ils ont découvert que lorsque le lait était transformé en fromage ou en lait fermenté, il pouvait le digérer. Donc ça, c'est parce que c'est l'action des micro-organismes de la fermentation qui digèrent le lactose. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, il y avait quelques individus qui, encore une fois par mutation aléatoire, avaient gardé la capacité à digérer le lait à l'âge adulte. Et ces gens-là qui pouvaient boire le lait sans être obligés de le transformer en lait fermenté ou en fromage, parce que ça marchait pas toujours, eh bien ces gens-là ont eu un avantage sur les autres, et de proche en proche, de génération en génération, ceux qui, au départ très peu nombreux, digéraient le lait à l'âge adulte, eh bien sont devenus plus nombreux dans les populations d'éleveurs, parce que c'était un avantage de pouvoir profiter des bienfaits du lait dès qu'il était sorti du pis de la vache, sans être obligé de le transformer en fromage ou en lait fermenté.
Sabiens, l'invité.
C'è scritto un mondo, aia di aradabili a piano, i nidoti a mogulomba, c'è l'universo a inventa, da inventa, culombulella, per di ugappiano, gullagelli, e per farie ridurnelle, di gavali e di lanieli. Dotti è nato un mondo, c'è l'universo, e morame, i nidotti amo puntana, c'è un maroso chi si calma chi tu canti piano, beu sempre un lungo andà, e beu e tu e un viliano, quelli d'un popolo sempre a fa.
Sabiens, chaque semaine sur RCFM.
Nous avons beaucoup de chance cette semaine, celle de recevoir Éric Birloès qui s'est intéressé à de nombreux sujets autour de l'alimentation et de la santé, de ce que mangeaient nos ancêtres. Focus également sur les épices ou sur le lait en l'occurrence. On aura peut-être l'occasion d'aborder à vos côtés dans un petit instant quels étaient les repas paysans, ceux des moines, des seigneurs, des princes et des rois. On va continuer de remonter le fil du temps, Fabrice. Alors à l'époque où on commence à domestiquer les animaux, est-ce qu'on cultive aussi ?
Oui, bien sûr. Tout ça. Alors, on commence d'ailleurs par cultiver la terre avant de domestiquer les animaux. La domestication animale n'intervient que, alors pas très longtemps après, quelques siècles, maximum un millénaire. Mais la domestication des végétaux, donc qui est la première, en fait, elle va être opérée non pas en un seul endroit de la planète, comme on le disait autrefois, mais dans plusieurs endroits du monde, de manière totalement indépendante. Mais c'est vrai que de toutes les premières agricultures du monde, la plus ancienne, d'après nos connaissances aujourd'hui, c'est celle qui est née au Proche-Orient il y a un petit peu moins de 12 000 ans, où là, pour la première fois, des hommes vont décider, tout au moins à relativement grande échelle et de manière permanente, à cultiver des céréales et des légumes secs. Pas n'importe quelle céréale, pas n'importe quel légume sec, mais c'est toujours des céréales et des légumes secs qui sont au départ cultivés. Alors au Proche-Orient, c'est du blé, des blés, il y en a deux. Il y a l'engrain. Alors l'engrain, vous le connaissez, puisque c'est le petit épeautre actuel. Hein, je dis bien le petit épeautre et pas l'épeautre. Donc ça, c'est vraiment un blé primitif qui a été très très peu, qui a été cultivé, mais qui a été très peu modifié génétiquement. Et puis l'amidonier, qui est un peu l'ancêtre de nos blés durs actuels, avec lesquels on fait notamment des pâtes, par exemple, des pâtes alimentaires. Et puis il y avait l'orge également, qui à la même époque, il y a à peu près 11 500 ans, a été domestiqué dans ce proche Orient. Et puis je vous disais, des légumes secs, comme des pois chiches, comme des lentilles, comme des fèves. Alors ailleurs, on va domestiquer, les hommes vont domestiquer eh bien, le maïs et les haricots, ça c'est sur le continent américain. Ils vont domestiquer en Asie, en Chine du Sud, le riz, bien évidemment, le millet en Chine du Nord, et puis comme légumineuse, le soja. Et puis, on oublie toujours le continent africain, mais le continent africain, voilà, c'est la civilisation du mil, du sorgho et du niébé, une espèce de petit haricot, entre guillemets, qui est cultivé. Alors, pourquoi des légumes secs et pourquoi des céréales? Eh bien, parce que ça pousse vite. On a des calories beaucoup plus rapidement qu'en élevant des animaux et en consommant leur lait ou leur viande. Donc ça pousse vite et c'est une source de calories importante. Et puis l'autre avantage très important des céréales et des légumes secs, c'est qu'on peut les conserver à température ambiante pendant des mois et des mois si on les conserve correctement. Et donc, ça c'est très important, au néolithique, au moment où l'homme met en place, invente l'agriculture, eh bien, sa ration, alors il va y avoir une explosion démographique, la ration alimentaire, il faut nourrir plus de monde, et on va pouvoir le faire avec des céréales et des légumes secs. On va consommer, nos ancêtres du néolithique vont consommer beaucoup moins de viande qu'avant, j'en parlais tout à l'heure. La viande va devenir réservée à une élite sociale, aux puissants, aux riches, etc. Ce sont les céréales et les légumes secs qui vont servir à nourrir le peuple. Les gens deviennent de plus en plus nombreux. Et à partir des céréales, on peut vraiment parler de plantes civilisatrices parce que les villages vont devenir des villes, des cités-états, qui vont devenir des royaumes, qui vont devenir des empires. Il va y avoir des conflits pour s'attribuer les ressources en eau, pour s'attribuer les stocks de céréales, etc. etc. Et des inventions également vont être créées comme tous les outils dont on a besoin pour cultiver, et puis la roue, et même l'écriture. Premières écritures en cunéiforme en Mésopotamie, eh ben ça ne sert pas à raconter des histoires ou à écrire des romans, ça sert à comptabiliser des quantités de blé, des surfaces de parcelles, etc., etc. Donc on peut vraiment parler de céréales civilisatrices et d'un changement radical de l'alimentation des populations à partir du moment où l'homme n'est plus chasseur-cueilleur nomade, mais paysan, agriculteur, éleveur, sédentaire. Et dans un premier temps, ce n'était pas terrible d'ailleurs pour sa santé, ce changement radical d'alimentation.
Une sédentarisation puis une domestication, effectivement, qui ont été une véritable révolution pour ces civilisations en Égypte, Mésopotamie, vous l'avez cité, la Grèce et Rome. Et du coup, à partir des céréales, Éric Birouez, vous en parlez brillamment dans cet ouvrage, on rappelle le titre, du steak de mammouth au yaourt aux éditions Ouest France, vous parlez du pain, de l'importance du pain à travers l'histoire, hein, la céréale qui va notamment permettre de le produire. Ça, c'est un élément majeur, un aliment clé.
Oui. Alors, ça dépend. Alors, évidemment, derrière le terme de pain, qu'est-ce que l'on met? Mais déjà, il faut se dire que comme l'homme n'a pas attendu, que, j'en parlais tout à l'heure, de cultiver les céréales pour consommer des céréales. Donc, il va les faire cuire les grains. Il va un jour avoir l'idée de les broyer, d'en faire de la farine, de mélanger ça avec de l'eau, et puis de faire cuire ce qui n'est pas du pain, mais qui sont des galettes, hein, dans un premier temps, ou des bouillies. Alors, le pain tel qu'on l'entend aujourd'hui, hein, le pain, en tout cas pour nous, Européens, c'est, et habitants du Proche-Orient et du Moyen-Orient, c'est le pain levé, avec une mie bien gonflée, bien alvéolée, et quelque chose qui est apparu il y a quelques millénaires. Alors, on ne sait pas exactement, on dit souvent que c'est du côté de l'Égypte ancienne. C'est possible, c'est pas sûr, hein, qu'une pâte qui aurait été destinée à devenir galette aurait été oubliée, et par la magie de la fermentation, hein, des levures et bactéries présentes dans l'environnement, cette pâte oubliée aurait levé, on l'aurait mise à cuire, et on aurait découvert que ce que l'on mangeait était beaucoup plus facile à digérer, peut-être beaucoup plus agréable également à manger, et donc ça c'est la naissance du pain levé. Mais le plus vieux pain du monde, ça c'est quand même intéressant de le signaler, il y a une publication il y a quelques années, hein, c'est pas très vieux, qui nous parle de ce pain primitif qui a été retrouvé dans ce qu'on appelle le désert noir, c'est en Jordanie, un site qui s'appelle Soubaïka, et on a des vestiges assez appréciés finalement, 14 600 ans, donc avant le présent, et donc c'est 3000 ans avant que les hommes ne commencent à cultiver le blé et l'orge. Alors, est-ce que c'était du pain levé? Probablement pas. C'était certainement des galettes. On a retrouvé que des miettes. Après, le pain a eu évidemment une importance énorme, une importance symbolique, hein, dans les religions, bien sûr, comme le christianisme. Mais on peut dire que le pain était vraiment un aliment fondamental, un aliment essentiel, un aliment sacré dans les grandes religions, judaïsme, christianisme, plus particulièrement. Et vous savez, aujourd'hui en France, on consomme un peu moins de 100 grammes de pain par personne et par jour, aux alentours de 80-90 grammes, mais au début du XXe siècle, hein, donc il y a un peu plus d'un siècle, on était à 900 grammes. Et au Moyen-Âge, un travailleur adulte pouvait consommer jusqu'à 1,5 kg de pain par jour, ce qui nous paraît évidemment considérable. Mais à l'époque, c'était quand même l'essentiel, pas la totalité, mais l'essentiel de sa ration alimentaire. Donc c'est un aliment qui, dans notre culture, était extrêmement important. Alors là où on n'avait pas de pain, on avait l'arbre à pain, comme en Corse.
Le châtaignier.
Et ailleurs. Voilà, c'est le châtaignier qui lui aussi fournit beaucoup, beaucoup de calories là où on ne peut pas cultiver du blé, par exemple.
Éric Birlouez, assez rapidement et juste pour conclure et refermer le chapitre de cette époque, à côté de cet aliment solide, on trouve quel type de breuvage?
Alors, ce que l'on consomme... Alors, il y a évidemment le vin qui a à peu près 8000 ans, hein, dont les plus anciennes traces de vinification, on va les retrouver là encore, du côté du Proche-Orient, du Caucase, etc. Mais avant cela, il y a la bière, hein, qui est mise au point d'abord en Mésopotamie et puis ensuite en Égypte. Mais d'abord en Mésopotamie, la bière, on l'appelle l'aliment liquide parce que la bière, certes, c'est un breuvage fermenté, mais qui alcoolisé et qui apporte des calories. Hein. La bière, j'ai parlé de l'hydromel tout à l'heure, on pourrait parler également évidemment du cidre, hein, si on veut rester dans le chapitre des boissons fermentées, alcoolisées. Alors on boit de l'eau, mais finalement, je dirais que l'eau, on s'en méfie parce qu'elle est souvent contaminée. C'est pour ça que nos ancêtres du Moyen-Âge consommaient et donnaient à leurs enfants de l'eau coupée de vin. Non pas de vin coupé d'eau, mais plutôt de l'eau coupée de vin, parce que le vin, par la présence d'éthanol, a un petit pouvoir bactéricide et donc permet de lutter contre tous les méfaits d'une eau polluée, contaminée par des bactéries et autres virus, parasites.
Sabia Ntsa, chaque semaine sur RCFM.
Juste pour voir qu'on donne à la vie des pourboires, pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir, on la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec vue sur une vie plus drôle. On pourrait donner tort à la mélancolie, on pourrait donner raison à nos douces folies. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. On vient, on perd la tête ce soir. On met des soleils dans nos yeux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. Ce soir, on vit la vie en mieux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. C'est tôt, on fait tomber tous nos remparts. On part avec un sac à dos. Dis-moi si t'es prête ce soir. Le corps et le cœur ex aequo. On oublie que le ciel est beau. À trop regarder les trottoirs. On pourrait donner corps à la mélancolie. Symphonie des corps chante jolie folie. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir. Viens, on s'entête ce soir. Viens, on ferme les yeux. Viens, on ferme les yeux juste pour voir. Juste pour voir. Viens, on perd la tête ce soir. On met des soleils dans.
Sabia Ntsa, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Nous sommes aux côtés de l'ingénieur agronome, historien de l'alimentation et auteur de multiples ouvrages, Éric Birlouez.
Il nous a parlé du vin, Éric. Avec le vin vient le fromage, mais un peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui, ça va bien ensemble. Un fromage aussi que vous mettez à l'honneur dans vos ouvrages, dans vos conférences, pour expliquer son histoire. On est plutôt sur les tables médiévales, près de moines à ce moment-là.
Oui, alors maintenant le fromage, il est beaucoup plus ancien. Hein. C'est-à-dire quand l'homme commence, qu'on l'a dit, à élever des animaux et donc à traire le lait, eh bien le fromage, eh bien ils découvrent que le fromage leur permet de digérer beaucoup mieux le lait que quand on le boit sous forme liquide. Alors on pense que le fromage, d'ailleurs, il s'est un peu inventé tout seul. C'est-à-dire que l'hypothèse, qui est assez plausible, qui est de dire que les éleveurs du néolithique, lorsqu'ils voulaient stocker le lait, lorsqu'ils voulaient le transporter, utilisaient des outres ou des gourdes qu'ils confectionnaient avec l'estomac de jeunes ruminants, hein, comme le chevreau, par exemple, l'agneau ou le veau. Et cet estomac, eh bien, dans cet estomac d'animal, de jeune animal, il y a une substance que l'on appelle présure, hein, qui est un ensemble de, un mélange, on va dire, de deux enzymes, dont le but est de faire coaguler le lait dans l'estomac du jeune animal. Et donc, en voulant boire le lait de leur gourde, eh bien, les éleveurs du Proche-Orient, ils se sont rendus compte que le liquide d'origine, le lait liquide, s'était transformé en caillé Et ce cahier, eh bien, il pouvait le consommer sans avoir le moindre trouble, le moindre désagrément digestif. Alors, c'est vrai que le Moyen-Âge est une période importante, en tout cas pour notre pays, pour la France, parce que ce sont les moines qui vont développer la fabrication de fromage pour plusieurs raisons. La première, c'est que les moines sont, en tout cas les moines de cœur, sont le plus souvent des gens qui sont issus de la noblesse. Et consommer du fromage, finalement, c'est faire vœu quelque part de pauvreté et d'humilité. Parce que le fromage était considéré comme un aliment populaire, un aliment de paysan, un aliment de berger. Et donc les moines, d'origine, d'extraction noble, eh bien, en mangeant du fromage, faisaient donc la preuve de leur volonté de vivre dans la sobriété, dans la pauvreté, etc. Et puis, comme la viande était interdite, en principe, il y avait des dispenses et des dérogations, mais la plupart du temps, les moines ne mangent pas de viande, eh bien, le lait était un moyen de compléter leur ration alimentaire. Donc, c'est les moines qui vont fabriquer ou faire fabriquer dans leurs abbayes les fromages. Et comme les moines savent écrire, eh bien, ils vont consigner par écrit les méthodes de fabrication des fromages. Ils vont les perfectionner et on va avoir des fromages, mais que vous connaissez encore aujourd'hui, qui sont d'origine monastique. Pensez au Comté, pensez au Brie, pensez au Maroilles, cher à mon cœur, moi qui suis originaire des Hauts-de-France, pensez au Roquefort. Voilà, ce sont des fromages qui sont nés des efforts, des observations et des moines qui ont donc consigné par écrit les méthodes de fabrication qu'ils ne cessaient de perfectionner.
Et si l'on remonte le temps, parce qu'hélas, l'horloge file, et pour arriver justement au Nouveau Monde et à tous ces aliments qui ont un jour fait leur apparition dans nos assiettes de manière contemporaine, quels sont les mets que l'on a importés des colonies, des révolutions industrielles, de la mondialisation alimentaire ?
Alors avant ça, effectivement, vous le disiez, il va y avoir la découverte du Nouveau Monde par les Européens, donc à partir des expéditions de Christophe Colomb et des autres conquistadors. Donc on va ramener en Europe la tomate, très banale aujourd'hui, évidemment, dans nos assiettes et dans notre cuisine méditerranéenne, mais la tomate vient du Nouveau Monde, donc elle arrive au début du XVIe siècle. La pomme de terre, c'est quand même un aliment absolument essentiel et qui a été très très important jusqu'à une période récente pour nourrir les populations européennes, mais pas que européennes, donc tomates, pommes de terre. Il y a également, alors là c'est une céréale, le maïs, évidemment très important pour nourrir les humains mais aussi les animaux.
Le café ?
Alors, le café, non. On pense souvent que le café est originaire du Nouveau Monde. En réalité, le café est originaire d'Afrique. Il est originaire des caféiers prospéraient à l'état sauvage sur les hauts plateaux de l'Éthiopie. Mais la culture des caféiers et puis la torréfaction, etc., tout ça, ça a été fait de l'autre côté de la mer Rouge par rapport à l'Éthiopie, donc au Yémen. Mais ce qui vient d'Amérique, c'est quand même d'autres breuvages que le café, et c'est évidemment le chocolat qui va être importé. Alors on a aussi les courges, hein, les courges, les courgettes, potirons, citrouilles, etc., qui sont d'origine américaine. Il ne faut pas oublier non plus les haricots, les vrais haricots, phaseolus au sens botanique du terme. Donc vous voyez, des aliments complètement essentiels aujourd'hui. On pourrait rajouter la vanille et puis quelques fruits également. Il y a l'arachide, le manioc, qu'on pense être là d'origine africaine mais qui sont d'origine américaine. Quand même une assiette très végétale finalement, puisque du Nouveau Monde, du continent américain, on importe en Europe et dans le reste du monde que deux espèces animales qui sont la dinde, la poule d'Inde dont parlait Rabelais, et le canard de Barbarie. Et puis pour finir, à l'inverse, il a fallu, le continent américain a accueilli des moutons, des chèvres, des bovins, du blé, de l'orge, du riz, de la canne à sucre, etc. etc. Donc, vous voyez, la mondialisation, elle se fait dans tous les sens. Ce n'est pas que le Nouveau Monde qui nous apporte tomates, pommes de terre, maïs, etc., mais c'est aussi le Nouveau Monde qui reçoit du continent européen, un peu asiatique et un peu africain, d'autres aliments devenus aujourd'hui courants sur ce continent.
Et c'est rigolo, Éric Birloez, parce qu'on a commencé cette émission à vos côtés en parlant du paléolithique et de ces premiers habitants de cette terre, en tout cas, qui vont travailler à la recherche comme ça de choses très naturelles. Et ils mangeaient notamment des insectes, vous nous l'avez dit. Et quand on vous lit notamment sur cet ouvrage dont on a parlé, un steak de mammouth au yaourt, eh bien, on se rend compte que l'aliment de demain se retrouve...
C'est l'aliment du futur.
L'insecte se retrouve aussi parmi ceux qui sont proposés comme un aliment du futur. Donc
oui,
c'est un cycle.
La boucle est bouclée.
C'est un cycle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric. On serait resté évidemment fort longtemps et davantage à vos côtés. Mais comme le disait Isabelle, le temps court. Merci beaucoup de votre disponibilité et puis de cet éclairage forcément passionnant toujours avec vous.
Bon, fort heureusement, nous avons à notre disposition tout un tas de bouquins pour approfondir ces questions-là. Et notamment la dernière partie sur laquelle on a été obligé d'aller un petit peu rapidement. Ce fut un bonheur de vous avoir à nos micros et en studio, Éric Birloez, aujourd'hui.
Plaisir partagé et au revoir Fabrice, au revoir Isabelle.
À bientôt, merci beaucoup. J'espère. Merci beaucoup.
RCFM, Sabien.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
Mama, mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Faisons le plein de connaissances dans Sapienza sur RCFM.
Nous avons la chance d'accueillir à présent Marie Garrido à nos côtés. Bonjour Marie.
Bonjour.
On ne vous présente plus, service biodiversité terrestre à la coordination de l'Observatoire régional des zones humides de Corse qui célébrait leur journée mondiale le 2 février dernier, comme à l'accoutumée, l'occasion pour nous de remettre un petit coup de projecteur sur ces espaces naturels uniques, ces joyaux de la biodiversité qu'il faut préserver, Marie.
Oui, et je vous remercie toujours de pouvoir mettre à l'honneur effectivement ces zones humides.
Avec l'envie derrière vos actions de protéger, d'éduquer, de faire prendre conscience, de s'engager aussi en faveur de leur protection, rapidement pour nos auditeurs, on rappelle à quoi on fait allusion lorsque l'on parle de zones humides.
Oui, bien sûr. Donc les zones humides, elles sont difficiles à définir quand même par essence, parce que ce sont des zones de transition entre les milieux terrestres et aquatiques qui n'ont pas de limite nette, identifiable, où c'est toujours discutable. Donc on le comprend, c'est des milieux qui sont dynamiques. Et en fait, on peut quand même, pour donner une définition, une définition d'ailleurs qui est apparue très très tôt dans le contexte politique mondial avec l'article 1er de la Convention de Ramsar, puisque vous avez parlé des journées mondiales des zones humides, mais c'est bien à ce titre-là qu'elles sont organisées, ces journées mondiales des zones humides. Donc Ramsar définit ces zones humides comme des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelle ou artificielle, permanente ou temporaire, où l'eau est stagnante ou courante, douce ou saumâtre, ou salé, et ça va même jusqu'aux étendues d'eau marine à une profondeur à peu près de 6 mètres. Donc pour la Corse, on parle des lacs, des potines, des tourbières, des mares temporaires, des étangs, des lagunes, des estuaires. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les zones humides, c'est une région où le principal facteur qui influence le milieu naturel, les animaux et la végétation, c'est l'eau.
Ce qui est important quand on parle des zones humides, Marie, c'est qu'elles hébergent une vie primordiale, notamment dans le cadre de la chaîne alimentaire.
Complètement. Dans toute la chaîne alimentaire, vraiment du plus petit organisme, du micro-organisme qu'on appelle phytoplanctonique, au plus gros, qu'on retrouvera à travers soit en termes de poissons, donc, soit en termes d'oiseaux, puisque les zones humides hébergent aussi une belle colonie d'oiseaux, notamment pour le plus connu, les flamants roses.
Et puis les insectes aussi, je crois que c'est important toujours. Oui, alors ils peuvent être gênants pour l'homme, hein, ils peuvent être gênants pour l'homme, mais eux aussi permettent de nourrir évidemment des batraciens bien souvent, qui eux-mêmes vont être à la fois donc des grignoteurs, mais aussi des proies d'autres animaux. Donc je crois qu'au niveau des paysages, évidemment, c'est toujours magnifique pour nous d'avoir accès, même de loin, uniquement par le regard, hein, quand on ne doit pas les fouler du pied, à ces zones-là. Mais voilà, avec aussi tout ce côté biotopique qui est fabuleusement présent et très fragile aussi.
Tout à fait, voilà, l'importance des zones humides, vous l'avez rappelé à travers son rôle de biodiversité, c'est des hotspots de biodiversité. Quand on appelle hotspots, ça veut dire voilà, dans ces milieux-là, on retrouve vraiment une très forte concentration aussi bien de végétaux que d'animaux aussi bien rares que menacés, que plus cosmopolites ou alors endémiques. Mais elles jouent aussi d'autres rôles essentiels à la subsistance de l'humanité. Notamment dans un contexte de changement climatique qui les rend encore plus menacés ou vulnérables. On pourra en lister vraiment tout un panel de rôles qu'elles jouent, qu'elles nous apportent. Ce sont des amortisseurs, par exemple, du changement climatique. C'est pour ça qu'il est important vraiment de promouvoir ces milieux. Comme vous me le permettez là aujourd'hui, d'en parler, de sensibiliser en fait vraiment l'ensemble de la société sur l'importance.
Ce d'autant que planent sur elle de multiples menaces, au premier rang desquelles peut-être l'anthropisation, en tout cas c'est celle peut-être à laquelle on pense spontanément. Quels sont les autres dangers ?
Alors, effectivement, il y a l'urbanisation, la démographie galopante. J'ai parlé du changement climatique. C'est quand même une des pressions qui est de plus en plus prégnante sur ces milieux. On peut parler également des espèces invasives, de la pollution, de la surexploitation de nos ressources naturelles. Voilà, malheureusement, oui, beaucoup de pressions et de menaces sur ces milieux.
Il y en a une dépression qui s'est fait remarquer dernièrement, en tout cas qui a fait l'actualité, c'est évidemment le crabe bleu, puisqu'on en a beaucoup parlé, hein, avec cette présence trop importante de ce crabe qui effectivement est bon à manger. Alors vous essayez, je sais, avec vos services, non pas de développer des filières, hein, le mot est bien trop grand, mais essayez de voir comment est-ce qu'on peut valoriser une menace actuelle, ou en tout cas minimiser son impact. Avant tout, c'est l'impact qui sera minimisé. Mais au-delà, la Corse, Marie, a-t-elle une richesse particulièrement importante en tant qu'île, en termes justement de zones humides, où, ma foi, on n'est pas mieux doté que d'autres?
Alors, je dirais pas mieux doté. Notre richesse est peut-être d'avoir une grande diversité sur une toute petite surface. Alors, on a des petites surfaces de zones humides, mais elles sont très diverses. Très diverses. Par exemple, on héberge la tourbière la plus septentrionale, de la France. On n'en a qu'une, certes, mais quelle tourbière, qui est d'ailleurs classée, labellisée site Ramsar. On a pas loin de 90 lagunes qui couvrent le littoral de la Corse, autant de mares temporaires, de nombreux lacs d'exception, tous ces paysages en fait, qui amènent chaque année de très nombreux touristes en Corse pour apprécier cette qualité, vous l'avez dit juste un peu avant, cette qualité paysagère qui est apportée également, non pas que par nos plages, mais également par nos zones humides littorales notamment.
Comment faites-vous au sein de votre service pour œuvrer, alors pour la protection, évidemment, la préservation, mais aussi l'éducation à ces zones humides? Quelles sont les actions que vous mettez en place pour les faire connaître?
Alors, bien sûr, déjà, on participe, on est référent coordinateur de nombreuses manifestations comme les Journées mondiales des zones humides, mais également la Fête des mares. Voilà, du moment où il y a une manifestation, on va pouvoir les mettre à l'honneur, on n'hésite pas. Ensuite, on organise beaucoup pour les acteurs en fait qui œuvrent sur ces zones humides. On organise beaucoup de journées d'échange, de temps d'échange. Donc là, on parle plus d'opérationnalité, de gestion, comment adapter cette gestion, notamment dans un contexte de changement climatique, comme on a pu en parler. Qu'est-ce qu'on fait également? On essaye de faire monter en compétences tous ces acteurs. Donc on propose des formations, alors soit qu'on dispense, soit qu'on fait dispenser. On est vraiment au cœur d'échanges importants et on essaye toujours de mettre au centre ces zones humides, les rôles clés qu'elles nous permettent on profite de ces rôles clés surtout, voilà, c'est plutôt ça. Et on essaye de toujours les remettre au centre des discussions, en essayant aussi de voir quelle opportunité on pourrait mettre en œuvre au niveau des politiques publiques pour mieux les préserver. On demande à ne plus les drainer, on les conserve, puisque donc l'Office de l'Environnement est aussi gestionnaire de nombreux sites humides. Donc voilà, on joue vraiment des rôles multiples, préservation, conservation, restauration, sensibilisation. Vraiment des rôles clés que l'on essaye de mettre en place au service des zones humides.
On retrouve hein, ces actions, ces programmes et ces missions également sur Internet, avec notamment le pôle Lagune que vous gérez, le projet Corse du pôle Relais Lagune Méditerranéenne, mais également oui. À travers le site ORZH. C'est comme zone humide de Corse, .OEC, comme office de l'environnement de la Corse.fr. C'est un petit peu indigeste, mais ça renvoie nos auditeurs à un petit peu de littérature concernant le sujet. Merci Marie Garrido de l'avoir évoqué aujourd'hui à nos micros.
Merci à vous.
Sapiens, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Vous avez parlé d'indigestion pour
reboucler avec la première partie.
C'était bien joué.
Et vous avez tenté le crabe bleu.
Oui, j'ai tenté le crabe bleu pour faire un lien entre Éric Birloez et Marie Garrido.
Bon, c'était encore chouette.
Ben oui, on s'est régalé.
D'apprendre plein de choses avec nos deux invités. On se donne rendez-vous lundi prochain,
avec
même
heure,
même fréquence. Ouais. 13h et 21h, ça c'est pour la diffusion en direct sur Avreguen Samor. Et quand on veut, on y revient à tête reposée, en podcast et en réécoute. Et on partage évidemment la page de Sabine, ça sur bleurcfm.fr.